l'importance, c'est vrai, de l'art, de la nature, bien sûr, les moutons qui sont là, de production. Et je dirais, en petit format, là, Jésus a marché la brebis dans les ronces, aux côtés de la grande icône, c'est bien sûr la résurrection qui sera décisive. S'il n'y a que la croix qui n'a pas la résurrection, rien n'est sûr. Mais parce qu'il est ressuscité, au terme d'un tel chemin, le chemin est ouvert, y compris dans les chemins de pardon, même si je ne suis pas maître de la réconciliation. Seigneur, donne-nous de pouvoir entamer ce deuxième partage, fort de ton amour qui précède et qui nous donne un regard d'autant plus fort que nous savons que nous pouvons prendre appui sur toi. On va donc poursuivre sur le chapitre relatif à la guerre et la peine de mort, en sachant que là aussi, la bonne nouvelle qui veut dire la dignité de tout humain doit pouvoir être perceptible. Et je redémarre au numéro 255. Ça peut être peut-être un peu plus difficile, et surtout peut-être en début d'après-midi pour la digestion. Je tâcherai de vous tenir éveillé. Moi, j'ai la chance, je ne veux pas m'endormir parce que je dois parler. Sinon, peut-être que si j'étais à votre place, mais non, c'est ça en blaguant. Mais... certaines situations extrêmes peuvent finir par se présenter comme des solutions dans des circonstances particulièrement dramatiques, sans qu'on se rende compte que ce sont de fausses réponses qui ne résolvent pas les problèmes posés. Ça, c'est déjà fameux de dire ça. Et qu'en définitive, elles ne font qu'ajouter de nouveaux facteurs de destruction dans le tissu de la société nationale et planétaire. C'est sûr que si on parle de guerre, l'ampleur est d'un autre niveau. Il s'agit de la guerre et de la peine de mort. Ils ne font qu'ajouter de nouveaux facteurs de destruction. C'est fort de dire ça, mais on va le développer. Donc, bien sûr, je vous rappelle, moi ici, j'ai résumé en 4 pages, grand caractère, tout le chapitre. Donc, forcément, il ne tient qu'à vous de lire complètement, mais toute l'encyclique, c'est mieux. Mais enfin, voilà. Au 258, le pape dit, c'est ainsi qu'on fait facilement le choix de la guerre sous couvert de toutes sortes de raisons supposées humanitaires, défensives ou préventives, même en recourant à la manipulation de l'information. On croirait, ça fait penser à des événements douloureux, mais... une guerre offensive, c'est clair, il n'en est pas question. Défensive, on peut dire, ben, la Belgique est neutre, elle n'a pas attaqué d'elle-même l'initiative d'attaque l'Allemagne, elle a dû se défendre. C'est défensif, c'est évident. Préventive, c'est déjà autre chose. Or, on sait bien que dans le monde, il y a des pays qui, sous prétexte de se défendre ou d'être préventifs, elles envahissent, elles manipulent tout. Bon, ça, évidemment, c'est imbuvable. Le catéchisme de l'Église catholique, je rappelle qu'en 1983, le pape Jean-Paul II, déjà depuis 78, mais voulu que sorte au plus vite ce nouveau catéchisme de l'Église catholique, une grande rubrique, qui est honnêtement quelque chose de très beau, il est fort. Je ne suis pas du tout, c'est pas mon tempérament par le catéchisme, mais je dirais qu'il est. Il est profond, il aborde différentes facettes, il donne des références bibliques et tout. Bon, mais ça ne se lit pas évidemment comme un roman. Il parle de la possibilité d'une légitime défense, pas d'attaque, d'une légitime défense par la force militaire qui suppose qu'on démontre que sont remplies certaines conditions rigoureuses de légitimité morale. L'Église a récemment été sollicitée pour demander mais qu'elle se situe là, face aux guerres. Et donc, à ce moment-là, il avait été dit, mais oui, mais il y a peut-être certaines conditions rigoureuses de légitimité morale. Sous-entendu, il y a des guerres qui ne sont pas légitimement morales. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est évident, ça peut être la porte ouverte à beaucoup d'abus. On veut ainsi justifier indûment même des attaques préventives, entre guillemets, ou des actions guerrières qui difficilement n'entraînent pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. Pas besoin d'explication, me semble-t-il. Le problème, c'est que depuis le développement des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, sans oublier les possibilités énormes et croissantes qu'offrent les nouvelles technologies, la guerre a acquis un pouvoir destructif incontrôlé. Je crois que, on pourrait dire que pourquoi est-ce que le pape perd son temps à ça, comme pape, on pourrait dire autre chose à dire, ben non, c'est aussi ça, parce que c'est évident que l'être humain, il est une entité, il y a ma vie personnelle face à Dieu, mais il y a la vie en société, et il y a la vie dans le pays. Et donc, si on touche à un de ces niveaux, tôt ou tard, on arrive à voir. C'est sûr qu'au niveau des armes nucléaires, je dis ça indépendamment de la question des élections, hein, ce n'est pas ça. Si on pense aux armes chimiques ou biologiques, on est dans un tout autre registre de guerre. Avant, si c'était des fantassins avec éventuellement une cavalerie ou quelques chars d'assaut, ma foi, c'était progressif. L'armée rentrait pour envahir ou détruire ou je ne sais pas tout quoi. Ici, je peux rester dans un bureau, puis tu appuies sur un bouton, il y a un petit drone qui va circuler, hein, on envoie un petit missile là, qui fait exploser une voiture dans laquelle il y a... Bon, on envoie un missile balistique... Maintenant, la course à la vitesse, ils sont supersoniques, ça veut dire que même nos avions ne savent pas les intercepter. Alors, on les met sur les sous-marins. Enfin, je veux dire, on est parti dans une folie où une personne, par un petit geste, peut détruire d'une façon énorme une ville, un coin. On nappe d'un produit, on avance et... Donc, je crois qu'on va se rendre compte qu'on est dans un autre registre que le mode de bataille il y a 80 ans. Et donc, devant ça, devant ce pouvoir destructif incontrôlé, on doit se rendre compte pourquoi l'Iran, on sait bien que c'est faux, mais bon, quand elle dit qu'elle veut pas l'arme nucléaire, bien sûr qu'elle la veut. C'est limpide, ça. Mais je dirais personne n'en doute une seconde. Même pas eux, sans doute. Mais c'est sûr que s'ils l'ont, ça ne fera que compliquer. Alors, ce serait mieux que personne ne l'ait, c'est ce qu'il dira. Il faudrait l'abolition complète. Dans le monde entier, il dira plus loin. Mais en attendant, on joue avec le feu. S'il y a un demi-fou, ou un quart de fou qui l'utilise, je ne sais pas ce qui se passera, mais il y aura sans doute des ripostes dans tous les sens. Certains qui profiteront de l'événement pour aller nettoyer le voisin qui l'ennuie. Hein, je dis ça exprès avec des termes pareils. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'on a conscience? Celui qui a le pouvoir et qui a la puissance, qu'est-ce qu'il a comme éthique? D'où l'importance, comme il le souligne dans toute l'encyclique, ça commence par ça. Cette obligation du dialogue. Et si, entre pays, il y en a qui énervent et qui sont excités, il ne faut pas mettre autour de la table. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es excité? Où est-ce qu'il y aurait une injustice? Parce que s'il y a une injustice, on pourrait dire, si tu rétablis la justice, je vais me calmer, mais si tu ne la rétablis pas, je vais m'exciter. Hein, admettons. Oui, mais se mettre autour de la table. Tout le sens... Choisir le dialogue, mais en vérité, combien de fois il l'a redit, pas à faire semblant. Pendant ce temps-là, eux continuent leur travail derrière le dos, pour ne pas être naïfs. Donc il faut bien voir les conditions. Mais même indépendamment de la foi, si on n'a pas l'honnêteté de prendre les moyens du dialogue pour éviter le conflit, alors nous chrétiens là-dedans, on est encore plus conscient, me semble-t-il, de cet amour de Dieu qui fait qu'on croit qu'il y a un chemin possible qui passe par le pardon, la réconciliation, mais aussi la justice et la vérité. Et donc, on est comme provoqué à en être un instrument. Si je me dis, ils n'ont qu'à se mettre d'accord, dans ce sens-là, je comprends quand on dit que, au niveau de la population, je ne parle pas au niveau des prêtres là, il faut qu'on s'implique en politique. On soit politicien peut-être, si on a une compétence. On a trop délaissé ça. Mais des bons politiciens, je dis bien des bons, tout ça qui ne se laissent pas acheter, qui creusent le pourquoi. Pourquoi je pense à ça? Pourquoi je mets telle valeur en avant? Et puis la politique, c'est de voir quels sont les moyens possibles compte tenu d'eux. Mais si on ne fait pas ça, c'est comme si on disait, gérer le monde, nous, on est bien dans le chapelet de notre Église. Ce n'est pas juste. Et donc, il nous faut des êtres profondément spirituels, mais en même temps, bien incarnés dans les réalités sociales, politiques, mais effectivement, qui savent ce qu'ils veulent et pourquoi. C'est peut-être ça le premier critère. Pourquoi je veux ça? Pourquoi telle valeur? Pourquoi, par exemple, je ne veux pas tuer? Vous allez me dire, oui, c'est malin, je ne veux pas tuer. J'ai plus loin. Pourquoi? Si on vous interviewait comme ça, là, maintenant, brusquement, sans vous avoir prévenu, dans le fond, vous êtes pour la peine de mort? La peine de mort, c'est déjà encore un cas particulier. Est-ce que vous acceptez que les gens puissent tuer, comme ça, les règlements entre... Vous allez sans doute dire non. Enfin, j'espère. Sinon, j'ai peur, je me cache. Mais alors, si vous en êtes... Mais pourquoi, dans le fond? C'est pas bon de tuer. C'est pas bien de tuer. Ben, oui, vous êtes d'accord, mais attends. Je fais un peu de cinéma, mais... Allez, 10 commandements. Ah oui, tu ne tueras pas. Ok. C'est-à-dire, Dieu l'a dit, donc c'est juste. Ok, oui, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Est-ce que, bien sûr que c'est juste, mais pourquoi est-ce que je comprends en profondeur que c'est juste? Peut-être que je peux dire, en toute humilité, aujourd'hui je ne comprends pas. Mais alors je peux chercher, c'est quand même pas banal. Mais si je crois que c'est juste, qu'est-ce qui me ferait dire? Comme chrétien, on ne devrait pas avoir difficile. Hein. Ah, j'espère que vous avez la réponse au bout de la lèvre. Hein. On va avoir la réponse, hein. Je ne vais pas la donner moi-même. C'est 258. C'est ainsi qu'on fait facilement le... Ah non, c'est plus le 261. Toute guerre laisse le monde pire que dans l'état où elle l'a trouvé. La guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse, une déroute devant les forces du mal. Alors comprenez-nous bien, le pape ne dit pas, oui, quand je mets trois petits points, ça sous-entend que bien sûr, et le petit point, c'est que j'ai pris un extrait, bien sûr. Hein. On ne va pas dire, donc on aurait dû se laisser envahir par les Allemands et ne rien faire. Ah non, ce n'est pas ça qu'il dit du tout. Mais il faut savoir que quand on passe à la guerre, c'est déjà un signe quelque part d'un échec sur le plan humain, parce qu'on n'est pas parvenu à se mettre d'accord. Mais c'est évident qu'à un moment donné, si on ne se défend pas, la catastrophe peut encore être pire que si on se laisse faire. Hein. Donc, soyons clairs. Mais en attendant, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour essayer d'éviter? Je parle assez fort? Je n'ai pas encore entendu ronfler, donc c'est bon aussi. 262. La paix et la stabilité internationale ne peuvent être fondées sur un faux sentiment de sécurité, sur la menace d'une destruction réciproque ou d'un anéantissement total. C'est pas juste. C'est comme si des parents manipulaient la peur pour que l'enfant obéisse, mais d'une façon un peu systématique là. Hein. Autre chose est de la peur de dire, mais écoute, si tu continues comme ça, tu vas te blesser, tu vas toucher à ta propre vie. Ça c'est autre chose. Mais des menaces du style, si tu fais ça, ben moi à ce moment-là, je faut pas faire ça tellement les enfants sont touchés, têtus. Mais ça peut pas être un mode de vie permanent. C'est quoi ça? Sinon on vit dans une peur d'une punition, d'une sanction, cette relation d'esclave. Alors je sais bien qu'avec certains pays excités, si on ne brandit pas une certaine menace, ils s'excitent encore plus et ils sont capables d'eux. Mais c'est là qu'on voit que ce n'est pas simple. Quand on voit les conflits, on voit bien qu'il y a des tentatives. Quand on voit ce qui se passe entre Taïwan et la Chine, c'est évident qu'on joue avec le feu des deux côtés. Alors, Taïwan, c'est une bouchée pour la Chine, au sens puissance d'un autre côté. C'est sûr que si la Chine envahit Taïwan, c'est pas neutre de conséquences au niveau mondial. Donc on joue là avec des réalités. Est-ce qu'on se rend compte? Qu'est-ce qu'on fait de l'humain? L'enjeu est bien là. Le puissant, il a la possibilité de faire fi de ce qui est humain pour assurer son avenir, son bien-être, sa maîtrise. C'est pas vrai que de la Chine. Hein. En dehors des guerres militaires, il y a des guerres économiques. Pourquoi la Chine achète des territoires entiers dans les pays du tiers-monde qui sont propriétés directes du pays de Chine et où la population locale n'a plus rien à dire? Comment est-ce que les présidents de ces pays acceptent ça? Ils appauvrissent leur propre pays en donnant le droit absolu de souveraineté à la Chine pour collecter l'alimentation qui part par bateau en Chine avec du personnel qui vient de Chine. C'est quoi? C'est juste, hein? C'est pire encore que tout ce qu'on peut nous reprocher dans l'époque coloniale. C'est encore pire, pas le monde. Alors qu'il y a eu des choses très belles dans l'époque coloniale. Il y a eu des abus aussi, malheureusement, mais là, c'est flagrant. Comment est-ce qu'on peut se laisser, pour le bien de sa population, accepter ça? Et on laisse faire. C'est insupportable. Vous allez me dire, mais c'est pas moi, mon petit niveau, moi, Philippe, seul qui peut réagir. Bien sûr que non. Bien sûr, quand je vote, je peux choisir des candidats qui sont un tant soit peu corrects, tout ce qu'on veut, ouverts. Ah, c'est là qu'on voit qu'on est solidaire d'un certain péché collectif. Si on ne réagit pas devant ce qui est injuste, je ne parle même pas ici de divergence d'opinion légitime, si on ne réagit pas devant ce qui est injuste. On va attendre que ce soit Dieu qui règle les problèmes à notre place? C'est trop facile. S'il existe, il devrait réagir. Oui, il existe. Oui, il agit. Mais pas à notre place. Il éclaire nos consciences. Il veut collaborer à travers nous, mais ne touche pas à ma liberté, parce que s'il touche à la liberté, je suis un pantin. Dieu est coincé. Au nom de l'amour qu'il a pour nous, s'il touche à ma liberté, il ne faut plus parler d'amour. Alors que, on ne se rend pas compte, mais là, on le vend. Alors, est-ce que quand Robert Schuman a lancé tout l'enjeu de l'Europe après la guerre, quelle audace prophétique, plutôt que de faire le choix armons-nous pour faire face à une éventuelle troisième guerre, et mettons-nous ensemble sur le plan économique pour nous apprécier, y compris entre ceux qui étaient entre guillemets ennemis, hein, la veille, et on voit que c'est possible s'il y a une volonté d'écoute, de respect des différences, de cheminer ensemble. Aujourd'hui, ça risque d'éclater parce que certains ne veulent pas entendre parler de certaines choses. On n'a pas non plus à imposer, n'importe comment. Personnellement, je suis très mal à l'aise quand je vois ce qui se passe avec la Pologne. On met, effectivement, je comprends le président qui dit, le Premier ministre, on met un revolver derrière la tempe. Sous-entendu, si tu n'acceptes pas ça, on te coupe les robinets. Oui, mais on coupe pour un pourquoi ? Pour des valeurs éthiques. Oh, on ne se rend pas compte, hein ? Mais il y a des lobbies. Est-ce que c'est juste qu'on laisse les lobbies intervenir comme ça pour obliger des pays à mettre en place des lois qui sont contre les valeurs fondamentales de l'être humain, que malheureusement notre pays accepte aussi. Moi je dis ça personnellement, de mon point de vue, mais le respect absolu de la personne ne veut pas dire que je dois être d'accord avec tout ce que la personne fait. Je peux faire des choses que vous n'acceptez pas que je fasse, c'est pas pour ça que vous devez me tuer ou me... je sais pas moi, ou souhaiter mon malheur. La question est là, est-ce que on peut à ce point marcher sur l'être humain? Vraiment de redoutables questions. J'espère que je ne vous ai pas choqué en disant ça. Hein. Pour moi, toutes les questions, vraiment... Je n'ai aucun problème à... Enfin, je ne dis pas que c'est facile, mais j'ai aucun problème à rencontrer des personnes qui sont des personnes avec des convictions philosophiques, religieuses, morales, différentes. Conditions qui ne disent pas « Mon modèle doit être un modèle pour tout le monde. » Ah, alors là, c'est autre chose. On passe à un autre registre. On passe à un registre politique, social. Est-ce que vraiment... ma foi, ma vision de l'homme, est-ce que vraiment ma vision de l'homme inclut cette négation de l'identité? Je parle d'identité du genre. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Oui, ça va loin, hein? Mais en même temps, je dois respecter la personne, c'est clair. Entre ça et lui dire on va étendre ta proposition au pays, à l'Europe. Alors, il faut voter, vous allez me dire. Oui, mais quand on sait que c'est les lobbies qui font pression et qui, en contrepartie, alors donnent de l'argent, où est la liberté, la vraie liberté dans la décision? C'est là qu'on est. Je tourne la page. Dans ce contexte, l'objectif ultime de l'élimination totale des armes nucléaires devient à la fois un défi et un impératif moral et humanitaire. Les armes nucléaires font un ravage en quelques secondes. Sur un pays, une région entière, c'est plus de la guerre, ça. C'est de la prise de possession massive, brutale, injuste, criminelle. C'est même plus une guerre... Il n'y a pas de guerre propre, mais ça dépasse d'autres mesures. D'un autre côté, on peut évidemment avoir peur parce que l'autre a l'arme. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là qu'on ne sait pas résoudre ce problème tout seul. La peine de mort. 263. Il est une autre façon d'éliminer l'autre qui ne concerne pas les pays, mais les personnes. Donc là, on n'est plus au cas de guerre, c'est entre pays, mais au niveau des personnes, la peine de mort. Saint Jean-Paul II a affirmé de manière claire et ferme qu'elle est inadéquate sur le plan moral et n'est pas nécessaire sur le plan pénal. Il n'est pas possible de penser revenir sur cette position. Le pape parlait là, mais dans le catéchisme de l'Église catholique, il y avait un flou là, qui acceptait peut-être envisager la peine de mort. Jean-Paul II a dit non, inacceptable. François le redit. Il n'est pas possible de penser revenir sur cette position. Il est inadéquat sur le plan moral et n'est pas nécessaire sur le plan pénal. Aujourd'hui, nous disons clairement que la peine de mort est inadmissible. Et l'Église s'engage résolument à proposer qu'elle soit abolie dans le monde entier. C'est pas une espèce de position extra pour montrer qu'on est bon. L'enjeu, c'est la dignité de la personne. Je crois qu'il faut vraiment bien le percevoir. Tuer quelqu'un, c'est vraiment lui empêcher de renaître. C'est lui empêcher, éventuellement, d'exprimer un regret, de passer dans une nouvelle forme de vie correcte, dans la joie de tous de voir ce progrès. On lui empêche un avenir nouveau qui serait correct. Bien sûr, on simplifie les choses. Ça coûtera moins cher. Hein? Ah oui, c'est évident, il ne faudra pas l'entretenir, je ne sais pas à quoi. Oui, mais attends, il dit bien, il n'est pas nécessaire sur le plan pénal. Nous disposons clairement. Où est-ce que c'est mis ? Oui, il ira plus loin. Il y a d'autres solutions aujourd'hui dans les États pour pouvoir garder en sécurité un prisonnier. Dans le 224, dans le Nouveau Testament, alors que l'on demande aux individus de ne pas se rendre justice eux-mêmes, Romains 12, on reconnaît la nécessité que les autorités imposent des peines à ceux qui font le mal. C'est normal. En effet, la vie en commun structurée autour de communautés organisées a besoin de règles de coexistence dont la violation libre exige une réponse adaptée. T'as volé quelque chose, la société doit pouvoir signifier clairement dans notre société, ça ne se passe pas comme ça, on n'est pas d'accord. Il faut donc une règle, il faut une sanction. Cela implique que l'autorité publique légitime, vous voyez bien ce qu'il dit, peut et doit infliger des peines proportionnées à la gravité des délits et que l'indépendance nécessaire dans le domaine de la loi doit être garantie au pouvoir judiciaire. On sait comme nous qu'il y a des situations où c'est bafoué et où on bâcle les procès pour arriver de toute façon à la conclusion qui existait avant de commencer. Et donc, il n'est pas question d'exclure, d'annuler l'obligation d'un jugement, d'une condamnation. Il est bien question ici, au nom de quoi vais-je aller jusqu'à supprimer la vie de l'autre ? On a connu chez nous des exemples horribles d'un Dutroux. Je crois plus horrible que ça, il n'y a pas moyen. On aurait dit, il faut le tuer. Je crois qu'il faut le courage de dire, non, on n'a pas le droit. Par contre, je dis non, au nom même de ma foi, elle dit ça. Surtout pas le relâcher, on est bien d'accord. Mais pas non plus le tuer. Il faut trouver un chemin où on va espérer qu'il fasse une évolution. Voilà. S'il ne la fait pas, il ne la fait pas, mais moi je ne me donne pas le droit de lui enlever la vie à partir du moment où il est mis en sécurité pour qu'il ne puisse plus faire de tort à autrui. Sauf le jour où il aurait éventuellement évolué, mais ça doit se voir, c'est comme dans la réconciliation. Si je vois que l'autre a perçu la faute qu'il a commise envers moi et qu'il a demandé pardon et que concrètement il met en place un changement dans son comportement, à ce moment-là je peux peut-être comprendre que la réconciliation est en train de se construire. Mais dans le cas d'horreur pareille, c'est pas de sitôt qu'on va voir le résultat. Il faut avoir le résultat avant de pouvoir le relâcher. Et être sûr que non seulement on garde il est en prison, mais qu'il est d'une façon telle qu'il ne sera pas à sortir, sauf coup de main flagrant, tout ce qu'on veut. Bon, voilà. Donc, parce qu'il serait aidé de façon injuste, quoi. Hein. Donc, ici, tant qu'il n'a pas changé, c'est la prison, mais qui doit aussi être un lieu de croissance, en vérité, pour que la personne puisse prendre conscience de ce qu'elle a fait, et en tout cas, avancer dans son existence. C'est pas en l'assommant ou en la droguant pour qu'elle soit une plante que c'est pas digne non plus. Donc il faut, voilà, je ne suis pas spécialiste dans la question, il y en a d'autres parmi nous qui le seraient plus, mais l'enjeu c'est de dire, je n'ai pas le droit de toucher à la vie. Je vous rappelle que quand l'Église dit tout cela, elle ne dit pas que quand il y a une guerre, surtout si c'est défensif, forcément on se doit défendre, donc je vais peut-être devoir tuer. Donc on n'est pas là. Ici, la question de la peine de mort et de la mort, c'est bien dans un contexte normal, sans guerre. Et donc, quand le pape François dit tout cela, c'est bien pour dire, jouer avec la peine de mort, du chantage ou quoi, non. Quand on voit ce qui se passe pour les couloirs de la mort, aux États-Unis, c'est horrible. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Mais par contre, on ne relâche pas le criminel qui risque de recommencer, mais qu'on l'attache avec 4 chaînes plutôt que 3, tout ce que vous voulez. Mais qu'on veille à respecter le fait qu'il ait une dignité. Qu'il ait dignité ne veut pas dire qu'on lui donne cette liberté. On doit lui enlever une part de liberté pour être sûr qu'il ne recommence pas. Sinon, on est coupable. Mais lui enlever la vie. Donc, on touche à toute une conception de l'existence. Et nous, chrétiens, je crois qu'on peut dire, ce bonheur de savoir qu'on est aimé de Dieu. En Jésus-Christ, je peux le lire. Voilà. Qui était jusqu'à donner lui sa vie pour que je croie à la vie. Et moi, je vais l'enlever à d'autres. Dès les premiers siècles de l'Église, page 4, certains se sont clairement déclarés contraires à la peine capitale. Par exemple, Lactance, je ne sais plus qui c'était, soutenait qu'il ne fallait faire aucune distinction. Tuer un homme sera toujours un crime. Le pape Nicolas Ier exhortait, tâchez de délivrer de la peine de mort non seulement les innocents, mais aussi tous les coupables. Et Amnesty International, qui, vous savez, travaille contre la peine de mort. Il y a aussi, allez, un bel mot sur le bout de la langue, en parallèle au niveau chrétien. Ça vous dit quelque chose? L'équivalent au niveau chrétien? La CAT, abolition chrétienne, abolition de la torture et de l'âme dans la peine de mort. La CAT aussi, au nom de la foi. Et donc, on prie pour les victimes et on prie pour les bourreaux. Ça, c'est bien quelque chose de chrétien. Vous allez dire, prie pour les bourreaux, mais ça ne va pas, là. Mais si. Ça va, t'exagères, hein. Non. Pourquoi Jésus dit, priez pour vos ennemis? Est-ce qu'il exagère? Vous pouvez le dire. Enfin, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire, oh, t'es génial, continue. Tu vaux plus que le mal que tu as fait. Je demande au Seigneur qu'il touche ton cœur pour que tu découvres un jour l'horreur de ce que tu as commis. Que tu aies un jour la joie de pouvoir confesser, c'est vraiment mal ce que j'ai fait. Pardon. La joie de Dieu, c'est un cœur qui se convertit. Vous allez me dire, ça c'est pas notre problème, on l'élimine ici-bas et il se débrouillera avec Dieu. Ah, c'est facile, moi je joue avec la vie des autres. Peut-être que si j'étais dans un autre pays, je serais déjà mort parce que je serais un dissident politique, considéré comme dissident politique, comme dangereux. Et donc on jouerait avec ma vie. Le respect de ma vie serait peut-être de dire, mais tu penses différemment, t'es embêtant parce que tu penses dans un autre sens que le gouvernement. On te donne le droit d'exister, d'exprimer tes propos à condition que tu respectes la vie des autres. On est dans un autre mode de fonctionnement. Quand Jésus prie pour ses ennemis, dit de prier pour ses ennemis, c'est vraiment pour que c'est l'ennemi, non pas au sens bien sûr matériel du terme ou je ne sais quoi, c'est ceux qui veulent peut-être en atteindre ma vie, qui ne veulent... Non, Seigneur, je ne veux pas leur malheur. Viens toucher son cœur pour qu'il comprenne ce qui ne va pas. Et viens toucher mon cœur pour que le jour où je vais peut-être me trouver devant lui, je trouve les mots appropriés pour pouvoir lui dire, ben oui, effectivement, ça ne va pas. Mais moi, personnellement, je te pardonne parce que je suis peut-être la victime, mais prier pour l'ennemi, mais c'est fondamental. Dieu veut la réconciliation de toutes ses créatures avec lui. Donc moi, si moi je dis mon ennemi, je m'en fous qu'il déguerpisse, ouais, c'est humainement compréhensible, la question n'est pas là, mais c'est pas pour ça que c'est juste. D'un point de vue chrétien, c'est pas juste. Ça ne veut pas dire que je l'ai invité chez moi en disant t'es mon copain, t'es mon ami, viens habiter chez moi. C'est de la folie, c'est pas ça du tout non plus. C'est respecter le fait de son existence avec peut-être toutes les précautions de prudence, une bonne distance là, mais sans vouloir son malheur et en voulant qu'il découvre en quoi il est à côté de la plaque. Prier pour mon ennemi, c'est ça. Mais c'est effectivement une attitude entre guillemets prophétique dans notre monde. Donc s'il y en a qui nous traitent de sots, naïfs, poires, bah oui. Moi je peux lui dire c'est ce que tu penses. Moi je pense que la civilisation avance quand on se respecte, pas quand on se tue. Non, se respecter, c'est un chemin. Sanigilio, travail, c'est contact entre pays, par exemple. Mais voilà, il y a une façon, il faut des relations de confiance pour aller dans ce sens-là. Mais donc, comprenons bien, aimer nos ennemis n'est pas souhaiter qu'ils continuent à faire le mal. Rappelez-vous tout ce qui était dit dans le numéro, au numéro 241. Il rappelle, au contraire, l'aimer comme il le faut, c'est œuvrer de différentes manières pour qu'il cesse d'opprimer, celui retirer ce pouvoir qu'il ne sait pas utiliser, qu'il le défigure comme un être humain. Comme être humain. Pardonner ne veut pas dire lui permettre de continuer à piétiner sa propre dignité et celle de l'autre, ou laisser un criminel continuer à faire du mal. Non, donc on a bien compris, hein? C'est exigeant. Mais si Dieu nous donne la vie, comment ça se fait que moi je me donnerais le droit de la supprimer? Je ne suis pas comme chrétien. Et il poursuit. 267, je voudrais faire remarquer qu'il est impossible d'imaginer qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, donc avec tous les progrès, les États ne puissent pas disposer d'autres moyens que la peine capitale pour défendre la vie d'autres personnes. Tu es dangereux pour les autres, je t'élimine. Eh bien, dis non, un État actuel doit pouvoir trouver quelque chose. Tu es dangereux, je te mets à l'écart d'une façon telle que tu ne pourras plus faire du tort aux autres, mais je respecte ta vie, ta dignité, mais tu vas devoir, non pas faire ce que tu veux, mais ce qu'on a décidé. Donc la question n'est pas de lui donner une prison dorée, vue sur la mer, TV, tout ce que vous voulez, salon, mais non, hein, on est bien d'accord. Il faut que la personne, on l'aide à entrer dans une conscience. C'est sûr qu'on touche à toute la question politique. Hein. Et il ajoute, les exécutions dites extrajudiciaires ou extralégales, tout le règlement de compte là. Tiens, comment ça se qu'il est mort celui-là? Ah, tiens, c'est un règlement de compte. La mafia, ou parfois pire encore, qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont des meurtres délibérés commis par certains États et par leurs agents, c'est clair et net, hein, souvent maquillés en affrontement avec des délinquants ou présentés comme des conséquences involontaires. Tu es un délinquant, tu n'es jamais content, tu dis, bon, on te met à part, on t'élimine, problème réglé. Qu'est-ce qui se passe en Russie maintenant? Je prends ces exemples-là pour montrer au loin. Navalny, il n'est peut-être pas blanc. Mais en tout cas, ce qui se passe pour lui, c'est évidemment inacceptable. Il ne faut pas être grand malin pour le voir. Mais l'enjeu, c'est grand. Puisqu'il est question de pouvoir au niveau d'un État, avec des enjeux militaires, sociaux, tout ce que vous voulez. Les arguments de 168 contraires à la peine de mort sont nombreux et bien connus. Depuis quelques-uns, l'Église en a opportunément souligné quelques-uns comme la possibilité de l'existence de l'erreur judiciaire. Vous savez que moi, parfois aux États-Unis, on a découvert après qu'on s'était trompé. Alors, il a 40 ans, il est jugement pour la pension, il sort avec peut-être une quoi est-ce qu'on dit enfin, lui donne de l'argent, de dommagement, mais en attendant, sa vie, il l'a passée en prison. Parfois, ils sont déjà morts, mais alors que c'est la famille, non. Erreur judiciaire. L'usage qu'en font les régimes totalitaires et dictatoriaux, qu'ils utilisent comme instrument de suppression de la dissidence politique ou de la persécution des minorités religieuses et culturelles. Enfin, voilà, on sait ça, mais est-ce qu'on se rend compte que, si on parle de la peine de mort, c'est vraiment s'attaquer à tout ce qui pourrait être faussement utilisé pour dire je t'élimine, j'ai quelque part le droit de t'éliminer parce que tu es dissident, parce que tu es soi-disant dangereux par rapport à oui ou non, j'ai le droit de tuer. Je ne parle pas en situation de guerre où là, forcément, si on est en pleine guerre, forcément, j'ai l'autre devant moi avec sa mitrailleuse. Je peux bien sûr peut-être prendre la cerveau blanc, mais je ne suis pas sûr que si je suis là clamé derrière, que c'est ça qu'il faut faire. Tous les chrétiens et les autres volontiers sont donc appelés à lutter non seulement pour l'abolition de la peine de mort, légale ou illégale dans le pays en question, et sous toutes ses formes, mais aussi afin d'améliorer les conditions carcérales dans le respect de la dignité humaine des personnes privées de la liberté. Et cela, je le relie à la prison à perpétuité. La prison à perpétuité est une peine de mort cachée. Ça, c'est un vaste débat. Encore un, hein, la prison à perpétuité. Mais la question est, qu'est-ce qu'on fait en prison? Est-ce que c'est un lieu où combien des avocats, de grands avocats, ont osé dire par rapport à leurs clients qui reconnaissait coupable, qui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour que là, en prison, il puisse un jour en ressortir autrement qu'un lion? Pire qu'avant. Oui. Alors, on pourrait dire, oui, mais on a déjà tellement de travail à faire pour éduquer dans les écoles, on n'a pas d'argent à dépenser pour les prisons. C'est un peu court, hein? Mais je dirais, bien sûr qu'il y a à faire énormément dans les écoles. Et que c'est là qu'on commence à apprendre à gérer la violence. Mais quand il y a des injustices, on ne gère pas ça de la même façon. Mais en tout cas, dans les prisons, est-ce qu'il faut laisser ce genre de modèle? Non, il n'y a pas. On ne touche pas à la vie de l'autre. Rappelons de 1969 qu'un meurtrier garde sa dignité personnelle et Dieu lui-même s'en fait le garant. Le rejet ferme de la peine de mort montre à quel point il est possible de reconnaître l'inaliénable dignité de tout être humain et d'accepter sa place dans cet univers. Étant donné que si je ne la nie pas au pire des criminels, je ne la nierai à personne, je donnerai à chacun la possibilité de partager avec moi cette planète, malgré ce qui peut nous séparer. Donc, quelle vision de l'homme derrière cette affirmation, pas toucher à la vie de l'autre. On peut dire, c'est folie aux yeux du monde, on est bien d'accord. Mais le pourquoi, au nom de la dignité de l'homme devant Dieu, chaque être humain devant Dieu. Là, c'est pour nous, on doit tous, hein, vous comme moi, savoir pourquoi je dis oui, pourquoi je dis non. Ça me fortifie. Et quand je prenais l'exemple du trou, ça dit bien ce que ça veut dire. Je répète, plus horrible que ça, je ne peux pas imaginer. En attendant, non, pas la peine de mort. Je ne joue pas avec la vie, Dieu me la donne, c'est pas moi qui peux l'enlever à autrui. Oser dire ça, c'est reconnaître cette dignité que Dieu seul donne et je ne peux pas jouer avec. Mais avec toutes les conditions, vraiment de mettre la personne, en sécurité et tout ça, de l'aider à une prise de conscience. Et s'il n'y a pas de conscience qui évolue, ben, tant pis. Mais en tout cas, je ne joue pas, je ne prends pas la place de Dieu. Dieu s'est fait en Jésus-Christ proche de nous jusqu'à la croix. Il était chercher la brebis dans les ronces. Il était chercher celui qui sciemment fait le mal et moi je me donnerais le droit de faire l'inverse. D'un point de vue chrétien, non. Maintenant, si la société dans son ensemble vote que c'est oui, je ne vais pas, moi, aller mettre une bombe, sinon je suis un violent. Hein? Mais donc, voilà, est-ce qu'on est prêt à savoir montrer la beauté, le pourquoi? Alors, face à ça, heureusement que j'ai vu le père Jean-Marc quand je me dis c'est déjà l'heure, c'est vrai, ça tourne trop vite, hein. Je voulais être plus court. Peut-être nous rappeler que notre vocation de disciple, c'est de montrer combien Dieu croit en l'homme, en connaissance bien sûr le cœur de l'homme, combien il veut nous donner la chance et la joie d'être instrument de croissance pour autrui, mais aussi d'être doux en chemin de croissance, quel que soit le mal, soit que nous aurions commis, soit que les autres ont commis. Mais la joie de Dieu, c'est un monde réconcilié qui, ici-bas, ne sera jamais pleinement accompli. C'est un chemin et dont l'Église est appelée à en être un signe. Un signe, oui, qui à certains moments peut trancher parce que ce n'est pas les valeurs du monde, mais de souligner la dignité de la personne, que ce soit en fin de vie aussi, la dignité de la personne. Je ne joue pas avec la vie d'autrui. Mais tout ça implique un chemin intérieur. C'est de l'intérieur que le Seigneur veut donner la force d'aimer, la force de la vérité, de la justice, du pardon. Et donc, on peut vous encourager à vous dire, mais tout ce que je ferai pour grandir dans ma vie de relation avec Dieu, en vérité, me fortifie pour me rendre capable d'être encore mieux témoin de cet amour de Dieu qui dépasse ce qui est simplement raisonnable. Pour être prophétique, mais avec bien sûr sagesse, intelligence, le respect du bien commun, comme dira aussi le pape François, mais aussi, comme il emploie l'expression, cette très haute dignité de l'être humain. Seigneur, tu nous as créés par amour, pour être un jour tous ensemble avec toi, dans une relation vivante, personnelle, relation qui n'aura pas de fin. Donne-nous de toujours mieux comprendre que cette dignité que tu veux pour moi, elle est aussi pour l'autre. Viens par ton esprit me montrer, nous montrer, là où tu nous invites un pas de plus pour être encore mieux témoin de toi. Marie, tu as porté le Verbe dans ton sein. Tu l'as porté sur tes genoux enfants, et puis tu l'auras porté sur tes genoux morts, avant de le retrouver ressuscité. Aide-nous à avancer avec confiance sur ce chemin. Je vous salue, Marie.
Pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà donc. Ce sera la fin pour aujourd'hui. Il y aura encore maintenant une demi-heure où chacun pourra marcher, aller prier ou rencontrer le Père Jean-Marc à la mezzanine ou moi ici en bas. À 3h moins 5, nous nous retrouvons à la chapelle pour un petit temps de clôture. Et alors sinon, rendez-vous bien volontiers le mois prochain pour le chapitre 8 avec le Père Jean-Marc. Voilà, bon après-midi.